une présentation de nos collègues de CARE qui vont lancer un petit peu l'entrée dans la chair du débat. Guillaume, à toi.
Alors, merci François.
Merci.
J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Voilà, donc bonjour à tous et toutes. Merci à Roland et à la FPCN pour nous avoir invités à ce forum. Donc, je vais commencer très rapidement par voilà, présenter un petit peu l'organisation que je représente, les valeurs qu'elle porte et comment ça s'intègre dans la réduction de risque de catastrophe avant d'aller vers la résilience, comment CARE travaille sur ce mot-là. Donc c'est mon propos sera un peu théorique, j'espère pas trop, mais voilà, agrémenté le plus possible de cas pratiques forts de mon expérience et de l'expérience de l'organisation que je représente. Donc, je me présente, je suis responsable des opérations pour Madagascar au sein de CARE France et j'ai également une casquette comme advisor sur la réduction de risque de catastrophe. En quelques mots, pour vous présenter l'organisation que je représente, donc CARE, elle a été fondée en 1945, c'est l'un des plus grands réseaux humanitaires mondiaux, donc apolitiques, non confessionnels, qui représentent 18 membres du Nord comme du Sud et qui est présent dans une centaine de pays dans le monde. La mission de ce réseau, c'est de lutter contre l'extrême pauvreté. Donc, au sein de ce réseau, eh bien, CARE France a été créée en 1983. Donc, nous sommes une association française, loi 1901, reconnue d'utilité publique. Au-delà de lutter contre l'extrême pauvreté, comme l'ensemble de nos collègues au sein de la Confédération, nous soutenons également le développement de solutions locales durables. Nous promouvons les actions de prévention et d'adaptation au changement climatique et intervenons bien évidemment dans les situations d'urgence. Nous avons donc cette double casquette ONG humanitaire et de développement. Nous agissons en faveur du droit des populations les plus vulnérables et de l'égalité des genres. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu et je pense qu'on se complétera aussi avec Julien Dachy. Vous dire qu'en 2020, CARE est intervenu dans 30 pays, donc principalement en Afrique, mais également en Amérique centrale et Caraïbes et dans une moindre mesure en Asie. Et enfin, nous avons la responsabilité managériale de trois bureaux, donc filiales, on va dire, au Liban, au Cameroun et donc à Madagascar que je supervise. Et enfin, pour vous donner une vision globale, donc CARE France, on va dire, est une ONG moyenne, dont le budget oscille entre 35 et 40 millions, bon an, mal an, et nous pilotons une centaine de projets. Voilà. Vous dire également, donc, je pense que c'est important, je l'ai mentionné, que le réseau est apolitique, non confessionnel. Nous avons bien évidemment au sein du réseau de CARE international, nous respectons le code de conduite du mouvement international de la Croix-Rouge, les standards de sphère, qui sont des standards en fait de minimum, comment dire, d'actions nécessaires pour que les personnes les plus vulnérables aient accès à l'eau, à la santé, à la sécurité alimentaire. Donc voilà un petit peu. Au-delà de tout ce qui est principe de neutralité, de respect du droit humanitaire international, bien évidemment. Au niveau de la réduction de risque de catastrophe, François le mentionnait en introduction, c'est vrai que CARE, au sens de la Confédération, fait partie de nombreux réseaux sur différents continents, notamment le GNDR, donc le Global Network of Civil Society Organization for Disaster Reduction. Donc, c'est un réseau mondial d'organisations de la société civile. The Voice, donc ce qui regroupe une petite dizaine, en tout cas sur la réduction de catastrophes spécifiquement, d'ONG humanitaires, mais également d'autres réseaux, donc d'ONG, que ce soit au Royaume-Uni, Bond ou Interaction aux États-Unis, travaillant là encore sur la réduction de catastrophes. Pour revenir donc à mon propos sur la résilience, donc le mot, un rapide petit historique, le mot est réapparu, j'ai envie de dire plus qu'apparu, en 2010 et a été très à la mode au niveau des bailleurs institutionnels et de la solidarité internationale. Donc on l'a défini un petit peu de manière un peu floue comme étant la capacité d'une population à faire face à un choc et à rebondir suite à ce choc. Donc la résilience se veut être au plus près du terrain des bénéficiaires, et l'idée étant de comprendre pourquoi ces populations sont vulnérables à ces chocs et comment essayer de les atténuer. Donc bien évidemment, ça passe par une analyse justement de ces causes de vulnérabilité de ces personnes, donc individus, communautés, et s'assurer que, et j'ai envie de dire, ça va au-delà de se remettre uniquement de chocs, mais ça doit véritablement prendre en compte le contexte dans lequel ces personnes vulnérables évoluent. Donc, et cela pour justement augmenter, donc améliorer ou augmenter la résilience. C'est le parti pris de CARE, donc vraiment de travailler sur l'augmentation de cette résilience. Et ce processus-là est un processus bien évidemment continu, multisectoriel, multitemporel, et enfin multi-échelle. Donc, en premier lieu, on va travailler sur ces analyses de vulnérabilité et de capacité d'adaptation au changement climatique. C'est une méthodologie qui a été développée par CARE, ensuite repris, adaptée par d'autres ONG et sous différents noms, que ce soit ACF ou HI ou d'autres. Donc, il s'agit bien véritablement d'un diagnostic de fait par la communauté sur justement leur vulnérabilité aux chocs et tensions qu'ils subissent dans leur environnement. Donc c'est une évaluation essentiellement participative et inclusive. Je ne m'étends pas sur l'inclusivité, Julien reviendra sur ce thème-là. Donc la communauté, à travers des exercices et sur justement ces chocs et aléas qu'ils subissent, eh bien, tend à réfléchir sur ces vulnérabilités et comment essayer de les réduire. Au niveau de CARE, on a renforcé cette analyse de vulnérabilité en ayant un focus sur le genre, je le mentionnais, sur l'égalité des genres, puisque on voit bien que les inégalités de genre contribuent à aggraver la menace que représente le changement climatique. On sait bien que eh bien, les problématiques de genre jouent sur les moyens de subsistance des individus. Si les femmes produisent essentiellement les ressources alimentaires de petites exploitations, elles n'ont pas accès à la terre, elles n'ont pas accès aux revenus, elles n'ont pas accès aux ressources du. Et selon une dernière étude du PNUD, donc Programme des Nations Unies pour le Développement, on estime qu'elles sont 14 fois beaucoup plus sensibles aux catastrophes naturelles, puisque voilà, ce sont les dernières à quitter le foyer par faute encore une fois, d'accès aux revenus ou de manque d'éducation, eh bien, ne sont pas suffisamment informés, sensibilisés pour évacuer. Donc, on a fait le choix justement de travailler véritablement sur l'implication du genre dans ces analyses de vulnérabilité, et on en découlera ensuite des analyses, des stratégies adaptées justement aux besoins des femmes et des filles, et considérant au niveau de CARE comme étant parmi les populations les plus vulnérables aux aléas. Je reviens donc sur comment nous, CARE, définissons donc le renforcement de la résilience. On estime que si les actifs d'une population, donc à savoir capital humain, économique, à travers le bétail, l'épargne ou capital physique, pour faire face à ces chocs, incertitudes, sont construites, si ce capital-là est construit et préservé à travers les projets que nous mettons en œuvre, et que les capacités pour construire la résilience, donc capacité d'absorption, capacité d'anticipation, à travers notamment les systèmes d'alerte précoce, la capacité d'absorption, c'est à travers l'épargne villageois ou la formation au premier secours ou des mécanismes de bon comportement par rapport à l'hygiène pour éviter toute épidémie. Capacité également, je le mentionnais sur cette incertitude, capacité à s'adapter à un environnement toujours plus changeant. À savoir, on voit que les pluies dans certaines régions sont de plus en plus erratiques. Comment adapter les pratiques agricoles au stress hydrique ou comment diversifier ses revenus pour ne pas dépendre d'une seule ressource. Et enfin, comment on peut essayer de transformer les systèmes et les structures dans lesquelles ces communautés évoluent, donc pour influencer les règles, les politiques au niveau de la communauté jusqu'au niveau de l'État. Eh bien, on estime que cette résilience-là sera renforcée à partir du moment où si on travaille sur ses capacités, ses actifs et en améliorant cet environnement, on va dire, législatif.
Merci
On le
beaucoup.
voit, je terminerai juste mon propos pour dire que voilà, on est sur une approche véritablement holistique, pour s'assurer d'avoir un impact significatif sur les risques auxquels font face les individus et les communautés, en indiquant encore une fois multitemporel, multi-échelle et multisectoriel. Merci.
Merci beaucoup, Guillaume. Ça nous lance bien dans le sujet. Moi, je retiens trois, quatre mots, hein. Réseau, résilience, multiscalaire, temporel et sectoriel, et évidemment, vulnérabilité à réduire, préparation, genre, etc. Donc voilà, je
Bien
crois que
sûr.
tu nous as tu nous as ouvert le chemin, et je propose de passer la parole à Julien.